RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
C'est le retour des grandes gueules du sport sur RMC. On est ensemble en direct jusqu'à midi. Si vous avez raté les deux premières heures de l'émission, sachez qu'elles sont d'ores et déjà disponibles en podcast. On a parlé de Corinne Diacre et des Bleus. Ont-elles réussi leur euro de foot féminin, même si elles ont raté la qualification pour la finale? CR7, Cristiano Ronaldo est-il un has-been, lui qui cherche un club, mais qui n'a pas de proposition à sa démesure? Arnaud Assoumani qui s'est plié à l'interrogatoire des GG, lui, notre nouvelle grande gueule. Il a été brillant. On a parlé de la culture du sport en France, un petit peu flinguée par Kevin Mayer, notre tout récent champion du monde du décathlon. Tout cela, c'est d'ores et déjà disponible en podcast. Le mieux, c'est que vous restiez jusqu'à midi, hein, maintenant que vous êtes là, et puis vous irez picorer les deux premières heures de l'émission quand bon vous semble. Toujours en compagnie de Marie Martineau, David Douillet, Arnaud Assoumani. À 11h30, les GG partent comme d'habitude sur le terrain. Aujourd'hui, la route du Tour de France Femmes. On se demandera si cette première édition labellisée, hein, on ne veut pas se fâcher avec Jenny Longo, a réussi à trouver son public. Mais pour l'instant, on passe la seconde ou la seconde manche, mais pas la seconde dose de rappel en tout cas.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Allô, c'est la Noire Rouge. Je voudrais parler au vétérinaire.
I'm not vaccinated and I'm not planning to get vaccinated, so...
Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire.
Novak Djokovic, réticent au vaccin, nous annonçait qu'il avait obtenu une exemption médicale pour se rendre à Melbourne et disputer l'Open d'Australie, où la vaccination est obligatoire.
J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï.
La seule bonne nouvelle que j'attends est qu'ils enlèvent le pass vaccinal, ou peu importe comment ils l'appellent aux États-Unis. Je ne pense pas qu'une exemption soit réaliste.
Tout le monde ment, mais plus ou moins. Tout le monde ment. Enfin.
En France, il pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permet.
Franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant.
Vraiment?
Ah oui, complètement.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémier, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop
hautes. Le savoir-faire RMC entre les mains expertes de Julie Dérault pour cette production. Et on va dire à Bastien Madonna qu'il faut qu'il se jette à l'eau. Hein. On attend la petite production de notre nouveau réalisateur qui est aux manettes de l'émission. Il en a 12 ou 13 à son planning pour demain. C'est le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open. Les vieux disent Flushing Meadows, du nom du complexe qui accueille le majeur américain dans la moiteur de la fin d'été new-yorkaise. Pas sûr que Dani Medvedev et Emma Raducanu, les tenants du titre hommes et femmes, soient les favoris pour la passe de deux. Chez ces messieurs, Novak Djokovic aurait une bonne tête de favori si le Serbe était sûr de pouvoir s'aligner. Toujours pas vacciné, le désormais numéro 7 mondial n'a pas le droit d'entrer sur le territoire de l'oncle Sam. Face à la baisse prétendue de la dangerosité du virus, certaines voix s'élèvent afin que le Serbe puisse tout de même jouer le tournoi en bénéficiant d'une exemption. Alors, sur la musique qui fout les jetons, cette question, les grandes gueules. Si Djokovic ne dispute finalement pas l'US Open, est-ce que vous blâmerez les organisateurs ou le joueur? Arnaud Assoumani.
Les deux.
Les deux, mon capitaine, pour Arnaud. Marie Martineau.
Le joueur, quoique il faut quand même expliquer.
D'accord, Denis Charvet hein, est toujours présent.
Ah, tu sais,
on l'embrasse. Il faut bien que quelqu'un représente le ni oui ni non dans cette émission. David Douillet.
Là, aujourd'hui, telles que sont décrites les choses et la pandémie, les organisateurs.
Les organisateurs, voilà un choix tranché de la part de David. Avant de vous donner la parole et d'écouter vos arguments, on accueille tout naturellement Eric Salio, notre spécialiste tennis à RMC. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut.
Eric, a priori, on le disait à l'instant, Djokovic ne devrait pas disputer l'US Open. Pourtant, ces derniers jours, on a l'impression que certaines lignes commencent à bouger.
Peut-être. Mais c'est vrai que lors de sa conférence de presse d'après-victoire à Wimbledon, Djokovic avait semblé fataliste à partir du moment où il reste droit dans ses bottes, à savoir qu'il ne veut pas prendre le risque de dérégler son corps en lui injectant un vaccin. On ne va pas de nouveau s'étendre sur ses convictions profondes. Mais comme les organisateurs de l'US Open ont décidé de se caler sur les directives du gouvernement américain, l'accès à Flushing lui semble bloqué. Alors, si l'ancien numéro mondial semblait zen par rapport à la situation, son coach Goran Ivanovic, lui, commence à perdre patience. Voici quelques punchlines d'une interview accordée à un site croate. J'espère que ces décisions d'obligation vaccinale seront annulées. Il y a eu des personnes infectées en Australie à Roland et à Wimbledon, et personne n'a jamais eu rien eu de grave. Il y a eu tellement de contradictions, pendant 2 ans et demi, ils nous ont terrorisés. Quand t'es infecté, c'est comme si tu as la gale, ils te mettent dehors, toi et l'équipe, nous étions sur le mur de la honte. Alors certes, une pétition a été lancée sur le site change.org, bon, elle a recueilli à ce jour près de 43 000 soutiens, je viens de vérifier, c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Le Serbe escompte plutôt à une sorte de grâce providentielle, peut-être. Peut-être elle peut venir du maire de New York ou carrément du président des États-Unis, Joe Biden. Novak Djokovic doit probablement activer ses réseaux américains, et il en a, car il a l'habitude de séjourner chez un milliardaire dans le New Jersey. En tout cas, il se comporte en professionnel durant ses vacances en famille au Monténégro. Il a été aperçu en train de s'entraîner. Mais on imagine la frustration de Djokovic, parce qu'à Wimbledon, on avait appliqué une politique plus souple, pas de test, mais une confiance accordée aux joueurs. Et on se souvient que Cilic, Berrettini et Bautista Agut, touchés par le Covid, s'étaient eux-mêmes retirés du tournoi pour ne pas contaminer leurs collègues de travail. Voilà la situation à un mois pile de l'US, mais tout peut s'accélérer dans les jours qui viennent. Sportivement parlant, ce serait dommage que Djokovic ne puisse pas tenter de rejoindre Nadal à 22 Grand Chelem, mais bon, il avait toujours eu connaissance des règles du jeu.
Merci beaucoup, Eric. Exactement. De nous avoir rappelé effectivement les tenants, les aboutissants de cette histoire. Une affaire rendue, je le disais, compliquée par le fait que certains arguent du fait que ce virus tue de moins en moins et se solde souvent, notamment chez les sportifs, les jeunes sportifs de haut niveau, par quelques symptômes légers. Merci beaucoup, Eric. Ce débat s'annonce un petit peu disputé. Pour toi, David, voilà, les organisateurs seront en tort si Djokovic n'est pas autorisé à disputer l'US Open. Pour toi, il faut faire un geste contre des restrictions qui, on le rappelle, hein, sont valables pour tout ressortissant qui veut entrer sur le sol américain.
Oui, ça veut dire aussi que les citoyens américains ou ressortissants américains ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination. C'est ça, ça faut le préciser. Et puis j'ai été recherché, j'ai fait quelques recherches parce que cette histoire commence à me gonfler menu. Dans ce qu'a promulgué le président des États-Unis sur des actes présidentiels, c'était en octobre 2021, je crois. On dit ça. Il y a une possibilité d'exemption à l'obligation de vaccination pour voyager aux États-Unis. Donc ça existe, hein, dans leur loi. Hein. C'est-à-dire que Djoko, il n'a pas le droit de rentrer, mais par exemple, une personne en voyage diplomatique ou en voyage officiel, elle a le droit. Un membre d'équipage de navire, il a le droit. Un membre d'équipage de compagnie aérienne, il a le droit. Une personne dont l'entrée sur le territoire américain relèverait de l'intérêt national, elle a le droit, s'ils le veulent. Sous-entendu aussi, les personnes qui bénéficient d'une exemption, elles doivent se tester dans les 3-5 jours après leur arrivée et se mettre 7 jours en auto-isolement. Bon, ça, Djoko, je pense qu'il serait capable de l'accepter. Donc, il y a tout dans la loi, dans les promulgations présidentielles, pour que Djoko puisse faire l'US Open. Et les organisateurs ne prennent pas ce type de porte d'entrée pour que on puisse qu'ils puissent travailler normalement. Moi là, je comprends plus. C'est bel et bien une volonté politique ou un acte de
sabotage.
De sabotage anti-sportif de la part des organisateurs. Voilà, c'est ce que je pense.
On précise que l'Américain qui porte bien son nom, Tennis Sandgren, non vacciné, lui pourra jouer en raison du fait qu'il est de nationalité américaine et qui n'est pas soumis aux mêmes conditions que les ressortissants étrangers. Il est monté au créneau, hein, en disant qu'il trouvait ridicule le fait que lui pouvait jouer mais pas Novak à l'US Open. On va faire comme à Sciences Po, hein, thèse, antithèse, on fera la synthèse avec Arnaud tout à l'heure. Pour toi Marie, c'est de la faute du joueur, Novak Djokovic ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Oui, Novak a fait le choix il y a quelques mois. Il a fait son choix personnel de mettre en avant ses croyances personnelles. On a tous eu à faire ce même choix. Je veux dire, Novak, comme tous les autres, moi la première, quand il a fallu aller faire la première dose de vaccin, ben oui, j'avais quelques peurs, quelques réticences. Et j'ai fait le choix de l'immunité collective. J'ai fait le choix du collectif. Je me suis dit, ok, faisons confiance quand même aux gens dont c'est le métier. Et puis jouons cette carte du collectif parce qu'elle sera toujours meilleur que ma petite carte à moi perso. Je l'ai toujours dit, je le revendique. Novak, il a fait le choix inverse. Il a mis au-dessus du choix collectif son propre choix parce que, alors comme tu l'as dit, hein, je sais plus exactement ses raisons, mais voilà, ça allait peut-être entacher sa préparation. Il y avait peut-être des produits qui allaient pas lui convenir et tout. Bon, très bien, mais il savait à quoi il s'engageait. Donc, partant de là, je vois pas pourquoi. Parce qu'on a un peu de recul, parce que ça fait 2 ans, on devrait peut-être commencer à desserrer la boucle. En tout cas, je vois pas en quoi ce serait la faute des organisateurs. Pour moi, c'est son choix, lui. Oui, qu'on commence à avoir des solutions, comme on a pu voir sur le Tour de France, avec, on fait des tests, après on regarde surtout si t'as une charge virale qui permet de côtoyer les autres sans les infecter.
Fondamentalement, ça te dérange pas que un Américain qui ait fait le même choix que Djoko, lui peut jouer et pas Djoko, franchement.
Bah David marque un point, effectivement, si je peux me permettre la métaphore, parce que effectivement, une fois que les joueurs sont réunis à Flushing Meadows, que tu sois américain ou serbe non vacciné, tu représentes le même risque ou le même risque existe pour toi.
Sauf que chaque pays organise avec ses propres règles, fait comme il en vit, c'est le principe même du monde dans lequel on vit.
À la souveraineté, exactement.
Me semble-t-il.
National. Arnaud, pour toi, c'est responsabilité partagée.
Oui, complètement. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des règles pour et des protocoles pour les sportifs et sportives. Il y avait les championnats du monde à Eugene et c'était exactement les mêmes protocoles. Et donc, ils ne pouvaient pas, s'ils n'avaient pas de passe vaccinal, aller participer aux championnats du monde lorsqu'ils étaient athlètes étrangers. Donc ça, c'est juste un fait et c'est une règle qui est la même pour tout le monde. Djokovic, effectivement, la connaît. Et donc, il n'est pas au-dessus des lois. Donc, je ne vois pas pourquoi lui aurait un passe droit alors que d'autres athlètes ne l'ont pas. Là-dessus, je ne suis pas d'accord par rapport à ça.
Il y a un Américain qui a une espèce de passe droit. Alors
il y a plusieurs grilles de lecture. C'est pour ça que je dis aussi, je nuance un petit peu. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a des règles. Ces règles-là, elles sont les mêmes pour tous les athlètes étrangers. J'ai pas dit américains, pour tous les athlètes étrangers. Ensuite, au niveau de l'organisation, il y a une incohérence. En interne, effectivement, moi je trouve ça complètement injuste qu'un Américain ou une Américaine puisse ne pas se vacciner, ne pas avoir ce pass et qu'on demande ça aux étrangers. Je ne comprends absolument pas. Donc je suis complètement d'accord avec toi, David, sur ce sujet. Et ensuite, il y a un manque de cohérence, en fait, par rapport aux organisations des grands chelems au niveau international où les règles ne sont pas les mêmes entre Roland-Garros, Wimbledon, Melbourne, et puis...
L'Open d'Australie, dont Novak Djokovic avait été expulsé, rappelle, après être rentré sur le territoire
australien. Et où ça devient effectivement un débat politique. Après, le sport peut servir à ça aussi. Mais l'argument que les diplomates ont le droit et que Djokovic, en gros, dans les règles, pourrait l'avoir... s'il y a une jurisprudence et derrière on rouvre pour tous les autres athlètes, d'accord. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des championnats internationaux qui sont déjà passés avec des athlètes étrangers. Il y avait cette règle-là que je trouve injuste. Mais du coup, malheureusement, Djokovic doit s'y plier aussi pour moi.
Au-delà de ça, il est quand même à la tête du syndicat des joueurs, donc c'est de désolidariser de tous les joueurs qui, eux, ont joué le jeu et se sont fait vacciner pour pouvoir faire en sorte que le spectacle continue, que les matchs continuent, que les grands chelems aient lieu. C'est compliqué d'être à sa place et de vouloir maintenant dire je me suis bien désolidarisé, mais bon, maintenant c'est bon, allez, on parle plus, tu vois. C'est compliqué. Ça doit pas être simple pour lui non plus de vouloir défendre cette carte-là quand même.
Alors on rappelle effectivement qu'il est non vacciné, il n'est pas porteur du Covid. Effectivement, il ne faut pas confondre tout ça d'une façon générale. Les GG, est-ce que vous êtes réceptifs à cet argument qui consiste à dire les sportifs de haut niveau, de toute façon, ils sont en pleine forme. Quand ils se refilent le Covid, il y en a jamais aucun qui est mort.
C'est terrible. C'est terrible parce que t'es toujours en contact avec des gens fragiles, donc tu peux absolument pas dire ça, mon Dieu.
Non. Ça, Marie a raison. Mais par contre, aujourd'hui, franchement, on organise un énorme tournoi, etc. On peut prendre tous les athlètes, les tester. On les met à l'isolement pendant 3, 4, 5 jours. Positif, tu repars chez toi. Négatif, tu restes, tu joues. Point barre. Faut arrêter les conneries, quoi. C'est tout. À un moment donné, ça suffit. Surtout, quand il y a des passe-droits de cet ordre-là que j'ai cité en préambule, c'est pas possible d'avoir deux poids, deux mesures. Le but initial, c'est quand même que la maladie se propage pas. Djoko, il est en pleine forme, il a pas le Covid, voilà, il doit pouvoir jouer. L'Américain, il s'est pas vacciné au même titre que Djoko, lui, il peut jouer. Enfin, là, on rentre dans des cycles d'aberration idiots. Oui,
donc, si je te suis, tu préfères le critère objectif du test positif, comme un petit peu pendant le Tour de France, et encore pendant le Tour de France, même en cas de test positif, en fonction de la charge virale, on était invité ou pas à rester sur la course, Arnaud.
Oui, mais je voudrais faire le parallèle avec les Jeux olympiques et paralympiques, hein, Tokyo 2021 et puis cette année aussi à Pékin. Il y a des protocoles. Il n'y avait pas de passe vaccinal à avoir, tout simplement, puisque dans ces pays, notamment au Japon, les gens sont très peu vaccinés, puis il y avait très peu de vaccins encore à ce moment-là. Donc il y a des protocoles qui sont mis en place, et qui sont mis en place depuis un moment maintenant. Donc effectivement, il y a d'autres solutions. Moi, je rentre même pas dans ces détails-là, parce que c'est complexe, en fait. Il y a des spécialistes, il y a des experts, des expertes qui doivent nous donner l'éclairage sur ce qui est bien à faire ou non d'un point de vue sanitaire. Mais ensuite, effectivement, il y a des protocoles et nous, les athlètes, on s'y plie, en fait. Lorsqu'il y a des règles, en fait, moi, c'est plus ce point de vue-là, c'est qu'il y a des règles. Ok, il y a des règles, on n'est pas forcément d'accord avec toutes les règles. Mais à un moment, en fait, c'est soit on fait partie de ce sport, de cette société, et on se plie aux lois, et c'est les mêmes pour tout le monde. Et même si on est numéro, enfin, il n'est plus numéro un mondial, justement, même si on est un des meilleurs joueurs de tous les temps, ou sinon, on se désolidarise. Et juste, j'aimerais faire un parallèle qui est, et mettre en lumière quelque chose qui est super important et qui est beaucoup plus injuste, mais auquel vous n'êtes pas au courant, mais entre guillemets à juste titre, c'est que par exemple cette année nous devions avoir les athlètes, les championnats du monde de para-athlétisme à Kobe au Japon. Ils ont été annulés en janvier sous prétexte Covid.
Ah oui.
C'est-à-dire que pour d'autres raisons, alors ils n'ont pas été annulés. Norme officiellement repoussée à 2024, où on aurait les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures entre les sports, où pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, on a mis en place des protocoles parce que
ça pèse.
Au niveau financier, c'était pas possible en fait de tout simplement les annuler. Là, par contre, ça gêne pas et ça gêne personne et vous n'en entendrez pas parler à part si vous avez un athlète qui vient vous le dire à la radio. Et il y a eu plusieurs sports paralympiques comme ça qui ont été annulés sous prétexte Covid, alors que dans tous les autres sports, il y a des protocoles qui ont été mis en place.
Eh bien, tu fais bien de nous avoir apporté cette information. Effectivement, les réactions sont nombreuses sur l'application Direct Studio. On vous encourage à faire le 32-16, à appeler Amina et à venir réagir dans les GG et vous, d'ici 20 minutes. Stéphane qui nous dit « David et les autres, je suis choqué par vos propos. Qui est Djokovic sinon un citoyen comme les autres? Il nous gonfle. Il y a moins de morts car les gens se sont vaccinés et les autres sont morts. S'il veut rentrer dans certains pays, qu'il se vaccine. »
Bienvenue dans ma team.
JB qui nous dit « Marie, c'est la première fois que j'entends aussi bien résumer la situation entre les non-vaccinés. Oh. » Et les vaccinés, bravo, c'est très bien dit. Voilà, et Thomas qui nous dit « Gignac n'a pas pu participer au All-Star Game avec sa ligue de foot mexicaine et vous n'en avez fait aucun cas. » Et ben voilà, écoutez, merci Thomas de...
De l'info.
Voilà. Exactement. Excusez-moi, c'est Pierre Amiche qui me raconte des bêtises dans l'oreillette. Vous restez bien avec nous, les grandes gueules reviennent dans un instant. On va partir sur le terrain, ou enfin plutôt sur la route, mais c'est la même chose. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h31 sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, David Douillet et Arnaud Assoubani, qui nous fait une première immense dans l'émission Nouvelle GG, tout à fait au niveau. À 11h45, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous avez entendu au cours de l'émission quelque chose qui vous a fait recracher le café ou lâcher le panier du marché. Venez vous emplafonner avec la GG qui vous a agacé. Ce lien entre vous, les auditeurs et nos consultants, c'est l'une des promesses de RMC, vous le savez. Mais pour l'instant, à 11h30, on revient à l'essence de notre beau métier. On part sur le terrain.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Et le terrain aujourd'hui, c'est la route du Tour de France Femmes, dont l'arrivée sera jugée demain à la super planche des belles filles. Aujourd'hui, 7e étape. On arrive dans la montagne, dans les cols, où le peloton sera sûrement très encouragé, comme depuis le début du Tour. C'était pourtant l'une des grandes questions. Y aurait-il du public pour les coureuses? Et jusqu'ici, la réponse, Valentin Jamin, est plutôt positive.
Oui, bonjour à toutes et à tous. La foule est certes plus éparse que pour les garçons, mais les suiveurs sont bien là. Des tables de pique-nique en bord de route, des villages festifs pour voir passer les coureuses, des banderoles, des drapeaux, beaucoup de sourires. Illustration, par exemple, je vous emmène avec moi. Hier, c'était sur la 6e étape à Rosheim, ville de l'arrivée de donc cette 6e étape. On est à un peu plus de 20 km de l'arrivée, mais près de la ligne d'arrivée parce que les coureuses vont effectuer une boucle et donc passer deux fois ici. Beaucoup, beaucoup de monde là derrière les balustrades, on tape dessus. Ah là, il y a une famille équipée. Comment vous vous appelez ?
Damien. Ouais, on est venu en famille de Colmar. Bah, il y a le meilleur grimpeur, il y a le maillot jaune. Et moi, je suis dans la voiture balai. Non, ouais, c'est largement comparable le Tour de France des femmes au Tour de France des hommes en termes d'ambiance, le monde que ça ramène, l'effervescence qu'il y a autour de la course. Je vois que les gens sont là depuis très longtemps, ils sont enthousiastes, ça draine du monde, des touristes, des locaux. Donc, ouais, je sens qu'il y a vraiment une grosse effervescence autour de la course.
Vous vous appelez les garçons ?
Léon. Lilian. On regarde, ça nous plaît. Et on aime bien parce que on trouve que les femmes et les hommes c'est pareil.
Et toi ?
Oui, moi aussi j'aime bien. Avec mon papa, on suit beaucoup le Tour de France des filles et des garçons.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une belle ambiance ?
Bah, je trouve. J'étais déjà dans beaucoup d'étapes du Tour de France des hommes et c'est exactement la même ambiance.
Oui, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde aussi. J'étais aussi à beaucoup d'étapes et il y avait aussi beaucoup de monde.
Allez, on a fait quelques mètres, là on se rapproche un petit peu de la ligne. On est tout près de la ligne d'arrivée.
Oui, on est à Rosheim, ouais.
Bien installé, racontez-nous là, vous êtes venu avec vos petits accessoires.
Bah ouais, j'ai pris ma chaise, j'habite à 50 mètres. Et bah on est venu voir les filles et les encourager parce que c'est vrai que les femmes n'ont pas assez de visibilité, je trouve, dans le sport et c'est important de venir les soutenir. Ah bah on est venu assez tôt pour avoir les petits goodies, les petits t-shirts qui vont bien pour se mettre dans l'ambiance. Et ouais voilà, donc on a la casquette, le t-shirt et maintenant on n'attend plus que les filles.
Justement là en termes d'ambiance, il y a quand même du monde là, on est près de la ligne. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais. Bah c'est chouette d'avoir autant de monde avec le soleil, on a tout ce qu'il faut quoi.
Est-ce que ça vous surprend ?
Non parce que ça vient petit à petit dans les esprits que les femmes aussi savent faire du sport et c'est chouette.
Comment vous appelez ?
Yves. Bien, moi je suis très content qu'il y ait enfin de nouveau un tour féminin. Et je constate qu'aujourd'hui on a autant de monde que sur un tour masculin.
En termes d'ambiance, du coup, vous êtes satisfait ? Vous êtes content ?
C'est la même ambiance qu'au tour masculin qu'on suit d'habitude, hein, mais vraiment, regardez, écoutez.
Ça va arriver là, j'ai l'impression.
Oui, oui, ça arrive là.
Ah, c'est super, oui, oui. On les suivra demain et après-demain encore. Oui, 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 oui.
Vous êtes venu d'où ?
On vient de Strasbourg. On va attendre demain. On va aller regarder au Marchstein. C'est quand même un grand événement pour la première fois, oui. C'est vraiment. Oui. Ah ben, plus qu'important. Il était temps, hein. Oui. Les filles, elles valent autant que les garçons et elles font aussi bien. Hein.
Elles méritent la même ambiance.
Ah, tout à fait. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, oui. Il y a de l'ambiance, on ne peut pas dire l'inverse quand même. Hein. Non, les gens jouent le jeu. Je crois quand même que ça fait plaisir à tout le monde.
Voilà, et les coureuses eh bien, sont les premières, évidemment, à en profiter sur le vélo. Agréablement surprise, toutes nous le disent, comme par exemple eh bien, Coralie Demey de l'équipe Saint-Michel-Aubert 95. Elle s'était échappée sur l'étape des chemins blancs. C'était la 3e étape, écoutez.
Et c'est vrai, quand j'ai passé le premier village, je suis ah ouais, quand même, c'est... J'avais jamais ressenti ça. On était en France, tout le monde criait ton nom, donc ouais, non, c'était incroyable. Et c'est vrai que quand, du coup, à la fin, je me suis retrouvée toute seule. Une course normale, peut-être que j'aurais attendu le peloton derrière pour essayer de, voilà, m'économiser un peu et réussir à basculer avec eux. Mais là, c'était du pur bonheur. Donc, non, je voulais rester devant le plus longtemps possible parce que, ouais, c'était un merveilleux moment. Même, bah, du coup, suite à mon échappée l'autre jour, c'est vrai que oui, sur Instagram, j'ai eu beaucoup plus de messages que d'habitude, beaucoup même de followers et tout, alors que, enfin, j'ai déjà fait de très belles courses autres, hein, mais là, ouais.
Voilà, on attend du monde aujourd'hui aussi dans donc les trois cols, les trois premiers cols de cette première grande étape de montagne.
Mais là, ouais, mon cher Valentin, j'ai envie de, de dire merci beaucoup pour ce petit reportage. Valentin Jamin, notre envoyé spécial tout au long de ce Tour de France Femmes. Tu restes évidemment avec nous, Valentin, si tu veux intervenir. Toi qui as été les yeux, la voix et les oreilles de RMC pour cette, alors je disais première édition, labellisée, hein, parce qu'on sait que ça a fait un petit, un petit conflit diplomatique entre Jani Longo qui a reproché un petit peu à l'organisation de dire c'est le premier Tour de France féminin de l'histoire. Elle a dit, vous êtes sympa les cocos, moi je l'ai gagné 3-4 fois votre histoire là, ça s'appelait juste pas encore Tour de France, il n'y avait pas les mêmes couleurs sur les profils de l'étape que ASO. Marion Rousse, la directrice de course, la directrice du Tour de France Femmes, qui sera l'invitée des grandes gueules du sport dominical demain à 10h30. Peut-être qu'on reviendra un petit peu sur cette bisbille entre la légende du cyclisme français et la nouvelle patronne du Tour de France Femmes. Les GG, question toute simple, est-ce que vous avez été convaincu par cette première édition ASO du Tour de France Femmes? Arnaud, je te voyais très attentif au reportage de Valentin sur l'ambiance et sur la façon de se réjouir d'un succès populaire autour de cette course.
Ouais, bah c'est super. Alors, dit-il, alors que j'ai pas suivi le Tour quasiment, j'ai vu un petit peu les infos, je le dis en toute honnêteté.
La franchise est appréciée.
Oui, non, j'ai un ami anglais, on s'est rencontré au Monténégro il y a 10 ans. Il me visitait pendant une semaine, donc j'ai suivi, mais un peu de loin. Je trouve le reportage super intéressant sur l'engouement populaire et en fait sur la manière dont on traite, parce que c'est le premier Tour de France féminin officiel sous le nom Tour de France, comme tu viens de le rappeler. Mais je ferai aussi un parallèle par rapport aux Jeux paralympiques. En fait, c'est qu'on traite là, toutes les réactions étaient. En fait, on est super content parce que c'est la même ambiance que pour les garçons, enfin que pour les hommes. Pour les Jeux Paralympiques, on nous pose les questions qu'on nous pose le plus. Mmh. C'est pas des questions sur le sport, c'est pas des questions sur la technique, sur la préparation, sur ce que tu ressens, sur tes émotions, etc. C'est sur le traitement médiatique. Est-ce qu'on parle assez suffisamment des athlètes paralympiques? Donc vraiment, depuis le début de ma carrière, on me pose souvent toujours un peu les mêmes questions. Et ensuite, sur est-ce qu'en fait c'est la même ambiance?
Tu nous prends la main dans le pot de confiture avec Sierra Michin, effectivement, ouais. Hein, on est les premiers fautifs, on pose la question.
Enfin, c'est le média de manière générale, et pas tout le monde, bien évidemment. Heureusement, il y a des questions de sport, mais c'est assez marrant et je préfère le pointer du doigt parce qu'à partir du moment où on dépasse ces questions-là et on part réellement, là, en fait, vu que moi, j'ai pas trop suivi, j'ai envie de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière étape, qui est-ce qui a gagné.
Mais justement, au départ, le débat c'était sur Marianne Vos, hein, la néerlandaise maillot jaune, et puis on a tiré le frein à main parce qu'on nous a dit Arnaud, il a rien suivi, donc on a été obligé de changer notre fusil d'épaule. Hein, on va tout vous révéler. Hein.
Excellent. Moi, je trouve que le fait que déjà le décorum soit le même impose quelque chose. Voilà, ça crée les conditions favorables au fait que les gens s'y retrouvent, quoi. Après, si on veut être très très objectif, moi j'ai trouvé difficile de tout comprendre, de tout suivre parce que y a beaucoup d'équipes qu'on ne connaît pas encore, des noms qu'on connaît pas encore, des athlètes qu'on connaît pas encore. Donc si tu voulais vraiment te mettre dans le bain, j'ai trouvé ça compliqué à suivre encore un petit peu par rapport à un tour masculin si il était question de vraiment comparé. Par contre, positivement, j'ai trouvé hyper surprenant. J'ai vu des sprints, elles sont cinglées, quoi. Enfin, c'était vraiment chouette d'être surprise par le niveau, l'envie de ces filles, leur façon de la nervosité un peu tout le temps parce que tu sens qu'il y a quand même peu d'habitude de peloton, de courses de ce type-là.
Il y a eu des chutes spectaculaires durant cette semaine de course.
Parlé, pas forcément sous les meilleurs auspices, mais enfin on a beaucoup pointé ça du doigt et c'est un peu dommage parce qu'il y a eu surtout plein d'autres choses à côté. Mais voilà, j'ai aimé la nervosité de ce peloton, des filles qui jouent encore un petit peu leur carte perso plus que celle de l'équipe parce que elles n'ont pas l'habitude de courir courir en équipe comme ça, sur des courses comme ça. Donc ça a fait un truc un peu sympa dans les codes du Tour de France masculin, mais avec vraiment la patte féminine. Donc très excitant, et le week-end s'annonce plutôt sympa. Les étapes de cet après-midi et demain sont excitantes.
Avec le dénouement effectivement de ce Tour de France femme, Marianne Vos, la néerlandaise, qui réussira peut-être à conserver son maillot jaune, ce serait un bel exploit, mais elle qui était pourtant l'une des favorites au départ de la course à Paris dimanche dernier. David,
moi j'aimerais en voir un petit peu plus. Voilà, je suis conquis et je me dis que ok, ça porte le nom du Tour de France, mais on n'est pas encore dans un vrai Tour de France avec de la montagne, beaucoup de montagne, avec des gros contre-la-montre, etc. Et que toutes les athlètes qui sont là le méritent. Voilà, c'est tout. Donc peut-être que c'était un galop d'essai.
C'en était certainement un, oui.
Ouais, et j'espère que on va arriver sur une formule dans la qualité des étapes au moins équivalente, parce que la qualité des athlètes, elle est là, et la réponse, elle est favorable, quoi.
Mais tu vois, ça nous fait une semaine entre l'Euro de foot et ce Tour de France. Ça a fait une semaine qui a quand même fermé le clapet à pas mal de médias qui pensent encore que détracteurs, en tout cas, qui pensent encore que on peut parler de sport féminin, que c'est différent, que c'est moins excitant temps pour les gens. Enfin, le juge de paix, ça a quand même été les audiences, le gens au bord des routes, et là on est au top. Enfin, moi je trouve ça merveilleux, ça c'est très très plaisant pour des filles comme moi qui ont pu faire du sport à une autre époque où on devait encore se battre pour expliquer ce qu'on faisait.
Oui, les filles, ça c'est pas ce qui est, c'est bien connu.
Tu sais, Simon, à quel point je suis pas dans cette trempe de filles ultra féministes et tout qui veulent absolument détracter tout.
Non, parce que alors maintenant la next step, prochaine étape, c'est d'arrêter d'accoler le
féminin à côté
des épreuves. Et effectivement, on est bien parti. Arnaud, tu voulais réagir à nouveau?
Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous, et c'est marrant en fait la différence des fois de traitement qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, David, j'aimerais peut-être avoir ton avis là-dessus, parce que pour le judo, pour des sports qui sont présents depuis très longtemps et qui rapportent des médailles, et dont le public en fait est acculturé, a l'habitude de d'encourager, que ce soit les filles, les hommes, on fait pas de distinction. Donc quand, à chaque fois qu'il y a une nouvelle distinction, je trouve ça assez étonnant, parce que la légitimité, la crédibilité, les filles elles l'ont effectivement, le format est différent, c'est nouveau, parce que aussi médiatiquement on ne traitait pas de cette manière. Et encore une fois, je fais encore le parallèle avec les Jeux Paralympiques, c'est exactement la même chose, la légitimité elle est là. Après c'est que les gens connaissent pas, et après c'est normal, il n'y a pas de problème à ne pas connaître, c'est juste de la pédagogie, expliquer, montrer, et puis on parle du sport, des spécificités, parce que c'est ça qui est intéressant, la passion, les émotions. Enfin, on est bien placé pour le savoir, ce que le sport représente et ce pourquoi les gens suivent aussi. Donc moi j'aimerais qu'on puisse parler un peu plus de ça. Et donc ouais, par rapport au judo, le judo voilà, c'est les premiers pourvoyeurs de médailles pour les Jeux Olympiques. Pour moi, on fait pas de différence depuis très longtemps. Enfin, j'ai jamais eu cette chance.
David, tu as 20 secondes pour répondre, parce que le standard explose. Les GG et vous, il faut qu'on garde du temps pour nos auditeurs.
Non, mais le judo, les compétitions féminines et masculines ont lieu en même temps, le même jour, les unes derrière les autres, quoi. Donc vraiment, les spectateurs du judo sont habitués à ça, et il y a autant de monde, personne ne déserte le stade quand les femmes arrivent, et au contraire. Et moi, je vous avoue très sincèrement que aujourd'hui, je m'éclate plus avec des combats féminins que beaucoup de combats masculins, pour être très clair. Donc voilà, c'est génial pour ça. Maintenant, c'est vrai que faire des Jeux Olympiques Paralympiques en même temps, ce serait l'idéal, mais malheureusement, je vois déjà les organisateurs s'arracher les cheveux, parce que en termes de taille,
beaucoup d'athlètes,
on double, et après c'est des questions techniques qui arrivent, une coupe du monde de foot aussi, etc. Mais au moins, si rien que si on faisait par exemple les Jeux Paralympiques juste avant les Jeux Olympiques, ça serait déjà une grande avancée, et je peux vous dire que là il y aurait un éclairage qui serait différent.
Et vous allez sur le site RMC Sport pour abonder la cagnotte Litchi afin d'offrir une montre à David Douillet. 20 secondes, on avait dit, mon cher David, tu m'en as mis 40 ou 50 à la louche en non plus. Écoute, les auditeurs du GG, vous, te remercie.
Si je fais la comptabilité,
j'ai même pas le temps de te gronder, tu vois, parce qu'il faut que je retourne voir Valentin Jamin à la fois pour le remercier et pour qu'il nous mette un petit peu l'eau à la bouche. Valentin, arrivé à la super planche des belles filles, comme les garçons, on est obligé de le préciser, dimanche pour le final de ce Tour de France, avec une région régionale de l'étape, comme on dit, Evita Music, qui espère drainer un engouement autour de cette étape.
Oui, la jeune française de l'équipe FDJ Suez Futuroscope, qui est originaire de Lons-le-Saunier, donc ce n'est pas très loin. Elle connaît très très bien cette montée. Elle espère, je pense secrètement aussi, avoir comme Thibaut Pinot les Pinot marqués sur la route. Pourquoi pas des musiques. Donc elle va vibrer demain comme toutes les grimpeuses. On aura aussi un œil sur la française Juliette Labousse, 7e du général, très bonne grimpeuse, victorieuse d'une étape sur le Tour d'Italie, qui pourrait briller dès aujourd'hui. Donc il va se passer de belles choses encore sur ce tour.
Et vous savez que quand la musique est bonne, je vous laisse compléter, vous connaissez évidemment vos classiques. Valentin, s'il n'y a pas musique marquée sur le goudron, tu prends un pot de peinture, un rouleau, c'est vite fait.
Oui, on compte sur toi.
Voilà,
je marquerai aussi Dutin. Si
et voilà, Drouet, Amis, Martino, Assoumani et les grandes gueules du sport RMC. Merci beaucoup Valentin, on te retrouve évidemment sur l'antenne de RMC pour suivre la fin de ce passionnant premier Tour de France. Femme, on se dépêche, on se retrouve dans quelques instants, c'est à vous de jouer les auditeurs. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h51 sur RMC, c'est la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. On est ensemble pour quelques minutes encore jusqu'à midi, où vous retrouverez les paris RMC autour de Benoît Boutron, Christophe Payet et tous nos amis pronostiqueurs pour monnayer un petit peu vos talents, vos tuyaux, essayer de vous faire gagner un petit peu d'argent. C'est le retour du foot en club avec le Community Shield, l'équivalent anglais du trophée des champions City-Liverpool. Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Mais pour l'instant, toujours en compagnie de Marie Martineau, Arnaud Assoumani et David Douillet, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Et on est ravi d'accueillir Thierry dans les grandes gueules du sport. Thierry qui a composé le 32-16. Salut Thierry.
Salut, bonjour à tous et à toutes.
Salut Thierry.
Merci Thierry. D'accueillir une nouvelle fois, bonjour.
Thierry, tu voulais réagir sur quel thème et réagir au propos de quelle grande gueule ce matin?
Alors, je voulais réagir au propos de David Douillet. Donc, bon, j'ai pas le gabarit pour me mesurer à lui, hein, mais voilà.
Il n'y a pas besoin, t'inquiète.
Il a vachement maigri là, hein, il est à la diète.
Ah, d'accord, donc il est en période de compétition.
C'est Norbody.
Oui, donc je voulais intervenir parce que j'écoute vos débats depuis ce matin comme régulièrement et je voulais intervenir sur notamment les propos de David Douillet concernant Kevin Mayer qui est devenu champion du monde et qui a réagi justement sur un état d'esprit français, l'approche de la compétition, la performance dans l'athlétisme, etc. Et donc je suis pas trop d'accord avec ce que disait David Douillet, qui disait que bon, on est un pays de sportifs, etc., et qu'il y avait beaucoup de sportifs en France. Le problème, c'est qu'on est un pays de sportifs, mais on n'est pas un pays de compétiteurs du tout. Et tout simplement parce que c'est culturel, c'est une question d'éducation. Alors moi, à mon niveau, je forme des commerciaux, donc je suis coach et formateur de commerciaux, et on a beaucoup d'approches en rapport avec le sport. Et on se rend compte que ceux qui ont beaucoup d'ego, qui ont beaucoup de gestion du stress et qui se performent dans le stress parce qu'ils sont éduqués comme ça, performent. On se rend compte que dans le sport, en France, on trimballe la fameuse phrase de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Donc ça, pour moi, c'est le plus grand mal du sport français depuis des décennies. Et donc, effectivement, bah, ça traduit tout l'état d'esprit français. Beaucoup vont participer. Mais dès qu'on a de la compétition, qu'il faut monter de niveau et qu'il faut se challenger avec les plus grands, bah, on est plutôt en mode, bon, gestion du stress, faut pas trop se mettre la pression, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment préjudiciable à l'ambition et à la performance dans le sport français. Donc, je revenais sur Kevin Mayer tout à l'heure. Je trouve qu'il a bien résumé. On est des sportifs, mais question esprit de compétition. Dès que quelqu'un commence à avoir de l'ambition en France, bah, on le catalogue, il est prétentieux, il est orgueilleux pour qui il se prend. Et je pense que tout ça nous pénalise, quoi.
David, une réaction très rapidement au propos de Thierry.
C'est pas vrai, Thierry. C'est pas vrai parce que d'abord, Coubertin a pas dit ça. C'est l'évêque de Canterbury qui a dit ça. Je veux rétablir ce fait historique. Et puis Dezio, je vais pas te faire le listing des champions du monde dont fait partie Arnaud et Marie, des champions olympiques depuis l'histoire du sport français. Mais elle est monstrueuse. Voilà. Alors qu'on mette pas tous les moyens pour que ceux qui ont l'esprit de compétition, les vrais compétiteurs, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, c'est un vrai débat et je pourrais être d'accord avec toi et je suis d'accord avec Arnaud et Marie sur ce sujet, mais que nos athlètes n'aient pas l'esprit de compétition, là je suis pas d'accord, parce que il y a bon nombre d'athlètes et des jeunes et des bons, des femmes et des hommes qui ont un vrai esprit de compétition, que ce soit dans le sport d'ailleurs, comme dans le monde de l'entreprise. Regarde nos grandes écoles et toutes celles et tous ceux qui se font happer par des grandes entreprises à l'étranger, parce que précisément nos cerveaux sont de grande qualité et sont très très prolixes et prolifiques. Donc voilà, il y a un esprit, il y a une fresh touch de la compétition qui est là, qui existe. On n'est pas les derniers, on n'est que 67 millions. Alors c'est sûr, on fait des comparatifs avec des pays comme les USA où ils sont plus de 300 millions, avec la Chine et d'autres. Non, mais c'est vrai. Il y a la loi, il y a les stats, il y a la loi du nombre. Voilà. Et je vous assure que en France, on est quand même. Faut arrêter de se tirer, de faire du bashing, de tirer des balles dans les pieds. On fait quand même partie du gratin des pays qui réussissent globalement.
L'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Voilà ce qu'a dit ce bon baron Pierre de Coubertin. Merci beaucoup. David Douillet, combatif hein, ce matin dans les Grandes Gueules.
Ouais,
qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Excellent, David Douillet. On remercie Thierry d'avoir fait le 32-16. On s'excuse auprès de Marc. Arnaud, tu avais quelque chose à rajouter? Non. Ben, c'est l'occasion de te féliciter hein, pour cette première dans l'émission. Je cite JB qui a pris la peine de nous écrire sur l'application Direct Studio. Il est brillant, cet Arnaud. Bravo.
Et on va
paraphraser
JB. Très bien.
En plus, si c'est David qui le dit.
Je suis adoubé par David Douillet.
Ça a été un plaisir de te recevoir dans cette émission. Et je doute qu'on te retrouvera. Si tu as goûté l'expérience, on sera ravis de te refaire une place. Peut-être qu'un de ces jours, je serai en face de toi.
Ouais, moi, j'ai hâte de le clasher quand même. Parce qu'on était relativement d'accord.
Ouais, parce que, il tient des positions. C'était dur de le clasher et tout. Faudrait réussir à l'énerver.
Un petit peu, qu'on soit pas d'accord.
Un petit peu. Voilà. Merci Marie, merci David. Il y en a un qui arrive toujours à nous énerver, hein, c'est Benoît Boutron.
Oh là là,
à qui je vais faire la passe pour les paris RMC. Il va essayer de discipliner un petit peu toute la bande des parieurs avec le retour de Christophe Payet, notre expert paris sportif. C'est le retour du foot en club, mon cher Benoît Boutron.
C'est le retour de la Ligue 2. Alors là, attention, la Ligue 2 est de retour.
Avec Bordeaux, du coup.
Avec Bordeaux,
Et
bien sûr, Bordeaux, Saint-Etienne, Metz, saison, le PFC, ça va être énorme.
Ça va être fantastique, la Ligue 2. On est là pour parier sur tout ça jusqu'à 13h, évidemment. Christophe Payet, Sébastien Piocel. On va se régaler. On a des beaux matchs à l'étranger aussi avec le Community Shield entre City et Liverpool. Et puis la Super Coupe d'Allemagne entre Leipzig et le Bayern. Restez avec nous si vous voulez gagner de l'argent et si vous voulez vous amuser. À tout de suite sur RMC.
Midi 13h, les paris RMC.